Les opérations avaient laissé leur marque, une grande cicatrice qui me parcourait le mollet sur toute sa longueur. Au bout, comme un petit animal sans vie, une esquisse de pied, sans talons et tout recroquevillé. Mais pas de quoi jeter une ombre sur le bonheur de mes parents. Dieu était là. Il veillait sur nous, et on pouvait compter sur lui pour arranger les choses. Les interventions ayant été des échecs, les médecins avaient demandé à mes parents de consulter en ville. En insistant bien sur le fait que je ne devais surtout pas marcher, ce que je n'aurais pu faire qu'en m'appuyant sur le côté de mon pied, aggravant ainsi ma difformité. En attendant, mon éternel sourire et mes yeux de biche faisaient la fierté de ma mère, et on aurait bien le temps de s'occuper de mon pied plus tard. D'autant qu'il fallait encore défaire les cartons, organiser la circoncision pour la semaine suivante, lancer les invitations, et puis s'occuper des 5 autres. Mais après 12 mois, il avait bien fallu se rendre à l'évidence. J'étais en âge de faire mes premiers pas, et je ne le pouvais pas. Dieu n'avait pas accompli son œuvre, il fallait lui donner un coup de pouce. Débuta alors un périple de plusieurs années qui nous mena, ma mère et moi, aux 4 coins de la capitale, à la rencontre de modestes spécialistes, de célèbres professeurs et de pathétiques charlatans. Chaque sortie était pour moi une nouvelle aventure. Je découvrais la ville et, surtout, l'univers captivant du métro. Tant de gens différents, des petits, des gros, des qui portaient des lunettes, de larges cravates, des attachés cases. Et puis des femmes rousses, comme maman, mais avec des yeux verts, des blondes à la peau claire et aux paupières soulignées de noir qui me rappelaient Sylvie Vartan, ma chanteuse préférée, même si elle n'avait pas du tout les dents écartées comme elle. Je les scrutais sans vergogne, me rassasiant de leur diversité, bien à l'abri des bras de ma mère. Le premier de la liste fut un généraliste, le docteur Salomon.
Voyons, voyons, je ne peux rien faire pour votre fils, madame, mais c'est un problème orthopédique, voyons. Il faut vous rendre à l'hôpital Necker pour consulter un spécialiste. Voyons. Il soigne les enfants, là-bas.
Vint le tour du docteur Müller. Il aurait fallu que vous interveniez bien plus tôt, chère madame. C'est lorsque les tissus sont encore mous qu'il est possible d'agir, vous comprenez ? Pardon de vous le dire ainsi, ma chère, mais il est trop tard maintenant. Votre fils ne marchera jamais normalement. Vous n'avez d'autre choix que de l'appareiller avec des chaussures prévues à cet effet. Puis, le docteur Rance.
À ce stade, il ne faut pas vous faire d'illusions, madame. Pérez, il faut vous faire à l'idée que il boitera toute sa vie.
Panique à bord. Pour Esther, cette perspective était impensable. Les mots « boiter »,« appareillage » ou « handicapé » étaient désormais à bannir en sa présence, sous peine de l'avoir déversé une flopée de jurons dans sa langue maternelle, et des plus crus. Son fils marcherait comme les autres, coûte que coûte. C'était toujours ma sœur aînée, Jacqueline, qui dénichait les médecins dans les pages jaunes et composait le numéro. Ma mère attrapait alors l'appareil en bakélite noir et déroulait son discours à grand renfort de modulation et de roulement de R.
Voilà, mon fils Roland, le pauvre, il a un pied beau de naissance. On l'a opéré nouveau-né, mais ça n'a rien donné,
expliquait-elle à la secrétaire. Et puis, invariablement, elle poursuivait.
On m'a dit que le docteur...
Elle ne se rappelait jamais du nom du toubib du jour.
Enfin, que votre patron est un as de la médecine, à ce qu'il paraît. Quand puis-je venir le voir avec mon fils ?
C'est ainsi que les rendez-vous s'enchaînaient, et chaque fois, la conclusion était la même. C'est trop tard, madame, vous auriez dû venir plus tôt. La déformation du pied est telle qu'on ne peut plus rien faire. Ma mère était à bout de patience.
C'est impossible, je ne vous crois pas. Depuis sa naissance, je consulte, et on me dit toujours que c'est trop tard. Ça veut dire que tous vos collègues étaient des incompétents, et qu'à cause d'eux, maintenant, mon fils, il va pas marcher.
Combien de fois ai-je vécu cette scène ? Combien de fois ai-je vu ma mère claquer la porte de la consultation médicale en invectivant l'assistante ?
Vous le saviez, vous, que votre patron ne pouvait rien pour mon fils, et vous m'avez donné rendez-vous, et j'ai payé pour rien, et ça ne vous dérange pas ? Tous les mêmes, ces médecins. Et si j'étais vulgaire, je vous dirais que c'est tous des voleurs. »
Et pourtant, dès le lendemain, son optimisme prenait le dessus et elle continuait à éplucher l'annuaire des professionnels avec ma sœur. On allait bien trouver la perle rare, celui qui saurait comment soigner son petit Roland. Elle arrivait chaque fois gonflée d'espoir, et moi, j'espérais avec elle.
« Tu vas voir, M'chik Parra, le gentil docteur, il va nous aider. Tu vas marcher, mon chéri. »
Mais chaque consultation était un coup de poignard dans le cœur de ma mère. J'en souffrais, mais d'une certaine manière, j'attendais avec impatience ces visites où j'étais l'objet de toutes les attentions. Le monde tournait autour de moi, et cela m'allait bien. Du moins, jusqu'à ce que je croise la route du professeur Prochion. Un nom qui, pendant des années, allait hanter mes nuits. L'un des orthopédistes nous avait orientés vers ce grand spécialiste, habitué à traiter des enfants atteints du même mal que moi. Plutôt que de nous accueillir dans un cabinet de l'hôpital Saint-Louis où il exerçait, le ponte nous fit entrer dans une vaste salle d'études où, tout autour d'une table d'auscultation, se tenait une vingtaine de ses étudiants. J'étais pétrifié. Esther, ratatinée sur sa chaise, n'en menait pas large non plus. Et, chose que quiconque la connaissant aurait jugée impossible, la violence du dispositif lui avait coupé le sifflet. Ses lèvres rouges carmin s'ouvraient et se refermaient sur le vide sans laisser échapper un son. Et moi, haut comme trois pommes, seulement vêtu de mon petit slip blanc que je triturais avec fébrilité, ne sachant que faire de mes mains ni de mon regard, j'étais posé là, sur cette paillasse glacée, comme un animal curieux.
Vous avez chez ce sujet un cas classique de talipes equinovarus congénital idiopathique, avec, comme vous le voyez ici, un varus marqué de l'arrière-pied et une atrophie du membre,
énonça mon bourreau en désignant de sa longue règle en bois les différentes parties de mon anatomie. Puis, remontant de son bâton le long de ma jambe jusqu'à ma hanche, il poursuivit sa leçon de choses avec une suffisance et une indifférence qui me transperçaient. J'avais froid. J'avais peur. Je sentais des larmes d'humiliation me monter aux paupières. Je cherchais les yeux de ma mère comme une amarre, mais l'épaisse silhouette du professeur Prochion me la masquait. Dans un besoin désespéré de réconfort, je tentais alors de croiser le regard de l'un de ses étudiants. Juste un peu de chaleur, c'est tout ce que je demandais. Mais rien n'y fit. Le nez dans leurs notes, tous ces binoclars n'avaient pas une once de compassion pour le petit garçon que j'étais. Je ne valais rien de plus qu'un objet d'étude que l'on palpait, que l'on retournait sans un mot d'excuse ou de consolation. Moi qui ne m'étais jamais rendu compte de mon anomalie, voilà que j'en étais réduit à l'une de ces silhouettes monstrueuses que l'on voit flotter dans le formol. Je pleurais en silence. Ce n'est qu'à la fin de la séance que le professeur daigna s'adresser pour la première fois à ma mère.
« Madame, nous allons programmer une opération pour votre fils. Ce sera l'opération de la dernière chance. Vous allez tout de suite prendre contact avec mon secrétariat et vous m'amènerez le garçon. Il y aura 8 jours d'hospitalisation et on vous dira ce qu'il faut faire. Voilà, on a fini avec lui. Au revoir. »
Le démiurge en blouse blanche ne donna aucune explication. Tout le trajet du retour en métro, je l'ai passé le visage enfoui dans les cheveux de ma mère, jouissant de la caresse rassurante de sa boucle d'oreille contre ma joue.
« M'chik Parra, M'chik Parra, » me murmurait-elle.
Ce nom bourré d'amour dont je ne comprendrai le sens que des années plus tard. De retour à la maison, la discussion fut vive entre mes parents. Mon père n'était pas convaincu.
« On va opérer le gosse comme ça sans savoir ?»
Tous les deux avaient le souvenir des opérations ratées que j'avais subies à ma naissance. « Un charcutage pour rien », avait coutume de dire ma mère. Et si c'était pire cette fois? Et si son fils servait de cobaye à ce boucher? En même temps, on lui proposait une solution. N'était-ce pas une chance à saisir? Elle était déchirée. « Tu le rappelles, Esther, on va le voir à son cabinet, pas à l'hôpital. » Et on y va tous les deux. On va voir à qui on a affaire.